France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Lynché dans les rues de Lyon le jeudi 12 février dernier, le militant identitaire Quentin Derenck est mort de ses blessures le 14 février. À Lyon, les affrontements entre groupes fascistes et antifascistes sont courants. Depuis plusieurs décennies, d'abord, la capitale des Gaules est marquée par une forte implantation de groupuscules d'extrême droite. Ces groupes, connus sous divers noms, ont souvent muté, ont été dissous, ont ressurgi sous des formes variées. En face, en réaction, des groupes antifascistes ont émergé plus récemment, cristallisant un espace d'opposition et de confrontation, de combat physique et politique. Alors, Lyon est-elle la capitale de la violence politique? Pourquoi ces groupes se sont-ils enracinés, développés, à Lyon en particulier? Qu'est-ce qui se joue spécifiquement dans cette ville? Les responsables politiques ont-ils trop longtemps fermé les yeux sur la réalité des groupuscules d'extrême droite? Deux invités ce soir pour nous éclairer. Sébastien Bourdon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez enquêté sur les groupes antifascistes et sur l'extrême droite radicale. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages. Le premier, intitulé « Drapeau noir, jeunesse blanche, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale ». Et l'autre, intitulé « Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence, enquête sur les antifas ». Deux ouvrages qui ont paru aux éditions du Seuil. Avec nous et à distance depuis Lyon également, Marie Alenoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Rue 89 Lyon, spécialiste de la question de l'extrême droite lyonnaise. Et je remercie Chantal Nouvelot qui nous permet d'être avec vous à distance à Lyon justement.
Génération Identitaire a été fondée en 2012, à l'origine des militants niçois qui vont implanter le groupe à Lyon. GI se rend visible par des coups médiatiques. Le plus spectaculaire se déroule dans les Hautes-Alpes, une banderole anti-migrants héliportée en pleine montagne. En 2017, le groupe affrète un navire en Méditerranée pour stopper les bateaux recueillant les migrants. Et c'est à la Traboule que les militants tiennent leur conférence de presse. L'implantation de GI à Lyon est assumée et visible. En 2015, l'association y organise un congrès des nationalistes. L'année suivante, ces militants perturbent bruyamment le conseil métropolitain. Dans le Vieux-Lyon, la tension monte avec les riverains et les associations de gauche. Au fil des ans, la ville apparaît comme un bastion des identitaires. Le 8 décembre, ils paradent sur les pentes de Fourvière. En toute légalité, le groupe extrémiste s'expose et s'impose, allant même jusqu'à peser sur les choix de la municipalité.
C'est à dessein que nous avons choisi de commencer par une archive pour prendre un peu de distance avec l'actualité de ces derniers jours. C'est une archive de 2021. Depuis cette date, le groupe Génération Identitaire a été dissous. Mais tout de même, cette histoire raconte un lien fort entre l'extrême droite et Lyon. Sébastien Bourdon, justement, quel est ce lien qui unit cette partie du spectre politique et la capitale des Gaules ?
Alors, une des particularités de l'extrême droite radicale à Lyon, c'est son implantation depuis plusieurs décennies, environ presque 20 ans maintenant, à travers l'ouverture de tout un tas de locaux dans la ville de Lyon, des locaux qui ont eu pignon sur rue, qui ont pris différentes formes, des locaux associatifs, des bars, des salles de sport, des locaux qui ont été plus particulièrement concentrés dans le Vieux-Lyon, et ça, c'est une des spécificités de la ville, c'est cette concentration de locaux. On en a eu 5 qui ont été ouverts, enfin, qui ont existé, qui ont coexisté en simultané au cours des années 2010, et des locaux qui appartenaient à différentes tendances de l'extrême droite radicale. Donc on a vraiment un panorama de l'extrême droite qui était représentée dans la ville et qui a pu s'implanter durablement et à travers ses locaux exister, recruter et être actif dans la ville.
À quoi ça sert très concrètement, Sébastien Bourdon, ces locaux? Qu'est-ce que cela permet? C'est d'abord un lieu de socialisation, un lieu de rencontre, un lieu de ralliement aussi entre jeunes personnes militantes d'extrême droite?
C'est tout à fait ça. Un local qu'organisation politique, pour n'importe quelle organisation politique, c'est notamment un vecteur de recrutement. C'est beaucoup plus simple quand vous disposez d'un bar associatif de dire à des potentiels sympathisants venez boire une bière avec nous vendredi soir et on va discuter, et à travers ça intégrer des nouvelles recrues dans son organisation politique. Le coût d'entrée dans la vie militante à travers ces locaux est beaucoup plus faible qu'une organisation qui n'a pas de locaux et qui va devoir inviter ses sympathisants à venir coller des affiches ou autres ou tracter, ce qui évidemment est plus difficile à premier abord comme porte d'entrée dans le militantisme.
Quelle est l'importance, Maria Lenoux, justement, de ces locaux, en particulier de ces salles de sport, de ces bars également, que l'on voit naître, surgir dans le quartier du Vieux-Lon, qui recoupe trois sous-quartiers, hein, Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Paul, qui trois quartiers qui sont au bord de la Saône à Lyon.
Ce qu'on peut dire, c'est que les principaux locaux en fait qui ont perduré de 2010 à 2024 sont les locaux des identitaires, donc qui s'appelaient la Traboule pour le bar et la Gauger pour la salle de sport. Ils étaient adjacents les uns à côté des autres, et on voit que c'était vraiment le lieu où à la fois ils s'entraînaient, ils se retrouvaient, ils organisaient des conférences publiques, ils organisaient des soirées le vendredi soir, et puis aussi des formations de leurs militants plus confidentielles, plus fermées, mais ils avaient un lieu pour le faire. Et ce qu'on a vu, c'est que quand les premiers locaux ont été fermés plutôt du côté du mouvement nationaliste, finalement les militants nationalistes ont fini par se retrouver à la Traboule, à la Gauger, et tout ce milieu en fait se mélangeait dans la Traboule.
Bon, mais Maria Lenoux, des salles de sport, des bars, ça existe à peu près partout, même pas à peu près, dans toutes les villes petites, moyennes, grandes de France. Qu'est-ce qu'il y a là encore de spécifique à Lyon? Déjà, pourquoi ces espaces portés, structurés par l'extrême droite, ne sont-ils pas fermés par les pouvoirs publics?
Alors, pour pouvoir fermer ces locaux, il faut prouver soit qu'il y a des atteintes à la sécurité, aux normes d'hygiène à l'intérieur. C'est ce qu'a essayé de faire la mairie de Lyon pendant près d'une vingtaine d'années, de fermer ces locaux pour des raisons de sécurité et d'hygiène, mais ce n'est pas aisé. Ou sinon, on peut les fermer pour trouble à l'ordre public, mais cette raison est peu souvent utilisée, parce qu'il faut montrer qu'il y a eu des troubles à l'ordre public autour des locaux ou venant des locaux, et les militants étant quand même précautionneux faisaient en sorte que on ne puisse pas directement relier les locaux à des attaques, des agressions qu'ils pouvaient perpétrer.
Ce que vos enquêtes décrivent tout de même, Maria Lenoux, c'est une forme aussi de laisser-faire ou une forme de laxisme des autorités au sens large. Comment vous l'expliquez ?
Oui, tout à fait. Nous, on a recensé entre 2010 et 2025 102 actes soit haineux, soit violents de la part de l'extrême droite à Lyon. Et 70% de ces actes n'ont pas reçu de réponse soit policière pour mettre fin à l'acte en question, soit judiciaire pour venir condamner les auteurs de ces actes. Pourquoi nous, on a identifié plusieurs raisons. D'abord, un manque de volonté politique, peut-être une forme d'aveuglement pendant un certain temps, de se dire que c'était marginal, que c'était des violences qui n'étaient pas aussi importantes que d'autres, et que donc ce n'était pas la priorité. Et donc ça, plutôt du côté politique, on va dire, et puis du côté plutôt justice, enquête, nous, ce que notre enquête a montré, c'est que il n'y a pas d'unification de la stratégie d'enquête, en fait, sur ces violences d'extrême droite spécifiquement. Et à ça se rajoute aussi chez les enquêteurs des centaines de dossiers à traiter pour un seul enquêteur, ce qui fait qu'on ne peut pas aussi bien se concentrer sur les enquêtes qu'on voudrait. Et puis, du côté des renseignements territoriaux, même s'il y avait une attention particulière sur les mouvements d'extrême droite, ils ont quand même été très mobilisés sur la question de l'islamisme, à raison, puisque c'est la première menace terroriste aujourd'hui en France. Mais un manque d'effectifs aussi de ce côté-là.
Sébastien Bourdon.
Ce qu'on peut dire peut-être en complément, c'est que du point de vue des autorités, un des avantages, entre guillemets, de laisser ces lieux ouverts, c'est que ça permet de fixer, entre guillemets, la mouvance, les groupes, et de savoir en fait où les surveiller. Ça permet de façon assez concrète de savoir que tous les vendredis soirs ou presque, les militants de tel ou tel groupe, ils seront là, et donc si on veut les trouver, si on veut les surveiller, eh ben on a un lieu fixe, alors qu'évidemment une fois que ces lieux sont fermés, ils sont dans la nature, entre guillemets, dans la ville.
Une autre archive et une autre voix, celle de Philippe Carry. Il est horloger dans le Vieux-Lyon. C'est un reportage d'Antoine Marette, diffusé sur France Culture le 1er juin 2018.
Depuis que les groupuscules tels que les identitaires sont arrivés dans le quartier, on a commencé à ressentir vraiment une pression insidieuse au départ. Ils ont commencé à vouloir séduire les personnes en essayant de rentrer dans les associations, ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont essayé de s'infiltrer chez des commerçants. C'est-à-dire, par exemple, rentrer dans des bars et puis petit à petit amener de plus en plus de personnes à consommer, certes, mais surtout à occuper le bar et faire fuir la clientèle qu'il y avait auparavant. Ils s'infiltrent chez certains commerçants et ils les étouffent par leur présence. Et les commerçants ne peuvent plus rien faire pour s'en débarrasser. Ça s'est souvent terminé par des bagarres générales dans des cafés, des restaurants, des différents lieux de réunion. Et puis, il fallait vraiment qu'il y ait une intervention policière très très forte pour que ça s'arrête, hein. Sinon le commerce périclite complètement.
Comment s'incarne-t-elle, Marielle Lenoux, cette présence de l'extrême droite, dans le Vieux-Lyon en particulier, pour rester circonscrit à cette aire géographique ?
Dans le Vieux-Lyon en particulier, là on entendait Philippe Carry à l'antenne, lui-même a été ciblé par ces mouvements-là. Il a été intimidé dans son commerce, il a eu la vitrine de son commerce fracassée. On a des kebabs qui ont été saccagés aussi dans le quartier, des stickers régulièrement collés dans les rues, plus particulièrement la rue Juivry, qui est située vraiment juste à côté des locaux des identitaires. Donc, en fait, quand on parle de violence de l'extrême droite à Lyon, il faut comprendre que vraiment, elle se matérialise en fait par des actes très violents. On a dès 2010 dans les rues du quartier Saint-Jean des syndicalistes qui sont frappés par des militants d'extrême droite. On a à la suite d'une manifestation en 2011 des sympathisants du collectif de vigilance 69 contre l'extrême droite qui rentrent de la manifestation et qui sont fracassés à coups de barre de fer. Il y en a un qui finit la mâchoire cassée. Et ça se retrouve tout au long en fait des années jusque peut-être la plus récente attaque et la plus connue, c'est l'attaque de la Maison des Passages en novembre 2023, où on a une quarantaine de nervis d'extrême droite qui viennent attaquer la Maison des Passages, où se déroule une conférence sur la Palestine. Alors leur cible, ce n'est pas vraiment la conférence, mais plutôt le service d'ordre ou des militants qui assuraient la sécurité de l'événement. Et on se retrouve avec trois personnes tabassées à l'extérieur, 45 jours d'ITT, des personnes terrifiées à l'intérieur de la salle parce que attaquées au mortier et des militants qui tambourinent contre la porte à coups de bâtons, de barres. Donc c'est ça la violence d'extrême droite à Lyon en fait.
Qu'est-ce que cherche Sébastien Bourdon ? Là aussi j'allais dire d'une manière très concrète ces groupes d'extrême droite, c'est dans le fond l'enjeu il est local, il est strictement local ou il porte des visées politiques plus large.
Alors, dans le cas des actions violentes qui viennent d'être évoquées, il y a quand même un enjeu de confrontation avant tout qui est recherché et de confrontation avec un ennemi politique qui est identifié sur leur territoire ou des ennemis politiques supposés et notamment une velléité de confrontation régulière avec des groupes antifascistes. Quand ils attaquent des événements comme cette conférence, je relisais il y a quelques heures encore des éléments du dossier judiciaire de cette affaire même, le message qui circule sur la messagerie Telegram et qui appelle ces différents militants d'extrême droite à se mobiliser pour cette soirée-là, c'est vraiment de dire on va monter un groupe pour aller se battre avec des antifascistes. Et en fait, a posteriori, ils se rendent compte que, enfin, ils savent même pas vraiment quelle est la conférence qu'ils attaquent. Il se trouve que c'est une conférence en soutien à la Palestine. Par certains aspects, les militants d'extrême droite après essayent de se dédouaner en disant qu'ils font partie du courant nationaliste révolutionnaire qui historiquement est plutôt pro-palestinien. Donc, ils sont en l'occurrence venu là pour chercher l'affrontement. Il y a un slogan qu'on entend parfois, il parle d'anti-antifa, c'est assez explicite.
Marielle Lenoux, vous souhaitiez réagir ?
Oui, dans l'enquête qu'on a menée sur les 102 actes qu'on a recensés, plus de la moitié visait justement des opposants politiques, donc des syndicalistes, des militants antifascistes, des militants associatifs, et l'autre partie des victimes, ce sont plutôt des personnes non blanches ou des personnes LGBT, et pour une toute petite partie, par exemple, des journalistes ou des médias.
Je reviens aussi, Sébastien Bourdon, sur un terme que vous avez mobilisé, celui de territoire. On a le sentiment que cette notion est régulièrement utilisée par les groupes d'extrême droite, par les antifas aussi, certainement, on y reviendra, mais que la capacité à tenir un lieu, à tenir un territoire, c'est une chose extrêmement importante et même centrale dans la pensée de ces groupuscules.
Bien sûr, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, ils parlent de tenir la rue, tenir le pavé, il y a cette idée vraiment d'un territoire à défendre et une sorte de géographie militante qui va se déployer de ville en ville. Là, en l'occurrence, à Lyon, on a parlé plus particulièrement du quartier du Vieux-Lyon, qui est considéré par les militants eux-mêmes comme étant leur bastion. Et donc, ils ne veulent pas que des potentiels adversaires politiques ou des personnes perçues comme telles puissent venir dans le quartier. Et à contrario, quand ils cherchent parfois la confrontation, ils vont aller dans des quartiers plus spécifiques, enfin d'autres quartiers de Lyon. On peut parler de la Croix-Rousse, on peut parler de la Guillotière, entre autres, parce qu'ils supposent qu'ils vont trouver leurs adversaires politiques dans ces quartiers-là et pouvoir les attaquer.
La Guillotière, qui est un quartier plus populaire de l'autre côté du Rhône et qui se situe à cheval entre le 7e et le 3e arrondissement de Lyon. Marie Allenoux, peut-être qu'aussi l'une des singularités lyonnaises, c'est qu'elle est à la confluence de plusieurs traditions de l'extrême droite.
Oui, alors à Lyon, on a eu à peu près toutes les mouvances de l'extrême droite qui s'y sont retrouvées. On a, comme je disais, les identitaires qui avaient ouvert leurs locaux. On a plutôt du côté nationaliste révolutionnaire, le GUD qui s'est implanté, le groupe Union Défense, dès les années 2000, qui est ensuite devenu le Bastion Social, puis Lyon Populaire au fil des dissolutions et des années. On a eu aussi Yvan Benedetti et son parti de l'œuvre française décliné en jeunesse nationaliste pour sa fraction jeunesse. On a eu aussi des hooligans. On a eu le groupe Blood and Honor qui était un mélange entre plutôt un côté de baston et aussi de concert. On a eu beaucoup aussi de concerts néo-nazis, enfin du mouvement rock anticommuniste et métal néo-nazi qui sont organisés dans la région lyonnaise. Donc vraiment, Lyon a été en fait en 2019 considéré comme le berceau de l'extrême droite radicale par les renseignements territoriaux et par la commission d'enquête parlementaire aussi qui s'est déroulée à ce moment-là, du fait de cette convergence des mouvements d'extrême droite à Lyon. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, sur cette période-là, enfin fin des années 2010, entre 2017 et 2020, on a deux mouvements principaux, le Bastion Social côté nationaliste révolutionnaire et Génération Identitaire côté donc identitaire, qui sont implantés à Lyon, qui sont des organisations nationales mais dont le QG se situe à Lyon, d'où ils diffusent leurs idées, leurs méthodes et d'où ils s'organisent.
Ces grandes traditions, Sébastien Bourdon, elles coexistent à Lyon, elles coexistent, j'allais dire, d'une manière presque séparée, ou bien on observe depuis plusieurs années une forme de convergence qui se retrouve également dans la façon dont les organisations d'extrême droite de jeunesse sont structurées.
Elle coexiste à Lyon comme elle coexiste ailleurs. Historiquement, avant la séquence des toutes dernières années, et justement ces très nombreuses dissolutions qu'on a connues, on a donc en gros trois principales chapelles de l'extrême droite implantées en France, avec du coup des formes de concurrence entre ces différentes chapelles. Ce qui se passe à Lyon et ailleurs ces dernières années, mais plus particulièrement à Lyon avec les dissolutions successives du Bastion Social, de Génération Identitaire, c'est qu'on a une porosité qui a été... Enfin, ces dissolutions ont favorisé une porosité entre les structures, et comme le disait tout à l'heure ma consoeur Marie Allenoux, une fois que les nationalistes révolutionnaires se sont retrouvés sans local, parce qu'en l'occurrence le Bastion Social a été dissous, plutôt qu'aller boire des bières dans n'importe quel bar ou qu'aller faire du sport dans n'importe quelle salle de sport, ils sont allés deux rues plus loin faire ça chez les identitaires, et donc ils se sont regroupés avec une autre tendance dont ils partagent pas forcément toutes les idées, mais dont avec laquelle ils se regroupent et ils se mobilisent volontiers, notamment dans une perspective de confrontation violente.
Quel lien, Marie Allenoux, à Lyon toujours, entre ces groupes d'extrême droite et l'Église catholique, dont on sait qu'elle est extrêmement présente et puissante à Lyon?
Nous, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'il y a une église en particulier, l'église Saint-Georges, donc qui est située dans le quartier de Saint-Georges, dans le Vieux-Lyon, qui concentre aujourd'hui la présence de militants d'extrême droite en son sein. On l'a vu notamment au moment des arrestations liées à l'attaque de la Maison des Passages de novembre 2023 dont je parlais. La plupart des personnes qui sont interpellées et mises en examen disent qu'elles fréquentent cette paroisse. Et cette paroisse, c'est pas une paroisse, c'est une église qui est rattachée à une paroisse. Et ce qu'on a montré, nous, dans une enquête donc publiée aussi en fin d'année dernière, c'est que les prêtres, les abbés qui sont dans cette église, dans cette paroisse, eux-mêmes sont de la frange la plus traditionnaliste de l'église catholique.
Quel lien dans le même temps, Sébastien Four-Bourdon, avec le football, avec l'Olympique lyonnais? Est-ce que là aussi on est capable de tisser des liens entre ces groupuscules d'extrême droite et la façon dont le football lyonnais est organisé?
Tout à fait. C'est de notoriété publique que depuis des décennies, les tribunes de l'Olympique lyonnais abritent des groupes qui comportent des militants d'extrême droite, des groupes d'ultra, des groupes de hooligans, dont certains sont littéralement des groupes de néo-nazis. Il y a très régulièrement, au cours de matchs et notamment de déplacements de l'Olympique lyonnais, des affaires avec des cris de singe, des saluts nazis. Il y en a eu encore assez récemment, notamment lors d'un match à Marseille. Et ce milieu du stade, comme il l'appelle fréquemment, en fait, va souvent venir prêter main forte, notamment dans les perspectives de confrontation. C'est des gros bras qui sont pas forcément là au quotidien en train de militer avec les militants d'extrême droite, mais que les militants d'extrême droite vont pouvoir appeler en renfort dans des périodes de tension.
Le lien maintenant, Marie Allenoux, avec l'université, avec le monde intellectuel en général. Je voudrais vous citer un extrait du rapport de la Commission sur le racisme et le négationnisme à l'université Jean Moulin, Lyon 3, qui a été lancé en 2001, ce rapport pointe, je cite, un enracinement d'un petit noyau d'universitaires proche du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, un des mouvements de la nouvelle droite qui a suscité de vives oppositions à cause de ses thèses inspirées du racisme scientifique du 19e siècle. Est-ce que là encore, l'université, alors non pas l'université en général, mais une université en particulier, je veux parler de cette université Jean Moulin Lyon 3, joue un rôle particulier dans la structuration de ces groupes, de ces organisations?
Alors, elle a joué un rôle, mais plutôt dans les années 80-90, justement au moment où le GREC, donc le groupe de recherche dont vous parliez, a été fondé et regroupait en fait de nombreux intellectuels négationnistes, révisionnistes, penseurs de cette extrême droite radicale, dont un des représentants était d'ailleurs Bruno Gollnisch, qui était au Front National à ce moment-là. Cette extrême droite intellectuelle a attiré à elle une jeunesse, des étudiants, qui ont donc fondé le groupe Union Défense, comme je le disais plus tôt. Aujourd'hui, l'université Lyon 3 n'est plus tant que ça un bastion de l'extrême droite radicale. Elle a quand même grandement perdu en force au sein des murs de l'université depuis ces dernières années, mais on pouvait encore au début des années 2020, donc 2021-2022, voir que la cocarde étudiante, donc un syndicat étudiant d'extrême droite, était encore assez présent et menait des actions, notamment via son porte-parole Sinicha Milinov, qui était une figure de l'extrême droite lyonnaise, qui a aussi été porte-parole des Rambards. Des Remparts, le groupuscule identitaire qui a suivi Génération Identitaire à Lyon, et lui-même qui a été condamné pour des violences racistes à 6 mois de prison en février 2024.
Alors face à cela, Sébastien Bourdon, ou en miroir, vous nous direz, comment se structure, comment surgit même des groupes antifascistes à Lyon? Pour quelles raisons? Et surtout, est-ce qu'on arrive à pointer une date précise de l'éclosion de ces groupes?
Alors, il y a deux groupes antifascistes principaux qui ont existé, disons, ces 10 à 15 dernières années à Lyon. Le premier, c'est un groupe qui s'appelle la GAL, groupe antifasciste Lyon et environ, qui a été dissous il y a maintenant quelques années. C'est un groupe de la tendance antifasciste autonome qui apparaît à peu près au début des années 2010. Et plus récemment, en 2018, on a un nouveau groupe qui a été créé d'abord à Lyon et qui ensuite s'est étendu à d'autres villes en France, la Jeune Garde, qui, par un certain nombre d'aspects, on en parlera probablement, prend un peu le contre pied du courant principal de l'antifascisme de la période, qui essaie de renouveler l'antifascisme, de populariser l'antifascisme. C'est des mots d'ordre qu'ils utilisent, et en l'occurrence la Jeune Garde se crée vraiment dans ce contexte, dans ce terreau qu'on vient de mentionner, est issu de la volonté en fait d'une nouvelle génération militante de s'organiser, notamment pour répondre et se prémunir face à ces attaques d'extrême droite, ces actions violentes de l'extrême droite radicale qui sont nombreuses comme on vient de l'expliquer.
Donc ce que vous observez, ce que vous constatez, c'est que ces deux groupes, et d'ailleurs indépendamment de leur tradition générations respectives, se construisent toujours, se forment toujours en réaction à l'extrême droite. Il n'y a pas d'organisation dite antifasciste qui se structure d'une manière ad hoc, sans penser justement à un travail contre l'extrême droite.
Alors, il y a des organisations antifascistes qui assume plus ou moins une forme de spécialisation dans la lutte contre l'extrême droite stricto sensu, qu'elle soit groupusculaire ou institutionnelle. C'est le cas de la Jeune Garde et c'est la conception de l'antifascisme qu'a développé la Jeune Garde. Ils assumaient cette spécialisation, entre guillemets, dans leur discours et dans leurs actions. Le courant qui précède la Jeune Garde et qui est l'autre grand courant du milieu antifasciste, disons depuis à peu près la fin des années 2000, c'est donc ce courant antifasciste autonome que j'évoquais, représenté à Lyon par un groupe donc qui s'appelait la GAL. Et en l'occurrence, ce courant-là théorisait pour le coup un antifascisme beaucoup plus large, avec une volonté de dépasser, enfin cette idée que l'antifascisme devait dépasser la lutte contre l'extrême droite stricto sensu et s'élargir et s'ouvrir à tout un tas de questions. En fait, ils parlaient eux de lutter contre ce qu'ils appellent un spectre de fascisation.
Par exemple.
Et donc, prendre en compte des thématiques comme la question des violences policières, la question de l'islamophobie, la question de l'accueil des personnes exilées, etc., etc., avec cette idée qu'il existerait un sort de continuum entre toutes ces thématiques-là et la question de l'extrême droite en tant que telle.
Je cite Marielle Lenoux, un extrait d'une dépêche AFP qui revenait sur l'histoire de la Jeune Garde. À sa création, la Jeune Garde se présente comme une réaction d'autodéfense face à des mouvances d'extrême droite particulièrement violentes et prospères à Lyon, dont le bassin sociale, fin de citation. C'est bel et bien ce que l'on observait, ce que vous aviez observé en 2018. On était à un point presque d'apex de la violence d'extrême droite qui a engendré la création de la Jeune Garde.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Lyon, en fait, comme je disais tout à l'heure, les principales cibles de l'extrême droite radicale ont été les mouvements de gauche, mais de manière large. Je cite par exemple le Parti communiste français qui a vu ses locaux à de multiples reprises être attaqués. Des manifestations étaient attaquées, des militants étaient attaqués. Et donc, c'est posé, en fait, dans les milieux de gauche, la question de comment on fait pour continuer à militer, à tenir des événements, des lieux, et en même temps, ne pas subir cette violence. Et c'est dans ce contexte-là, oui, que s'est créée la Jeune Garde, qui a assumé tout de suite, d'ailleurs, d'avoir ces deux jambes, à la fois une jambe plus d'antifascisme politique, d'interpellation politique, de présence médiatique, de réunion aussi via le collectif Fermons les locaux fascistes, des partis politiques de gauche, des syndicats, des associations, des collectifs. Donc ça, c'était vraiment la jambe plutôt publique de la Jeune Garde. Et une jambe plus physique, confrontationnelle avec l'extrême droite, qui était ce que eux appelaient l'autodéfense populaire. Donc de dire on va défendre notre camp social, on va défendre nos événements, nos lieux, et aussi entrer dans des affrontements avec l'extrême droite radicale.
Une archive de 2022 qui retrace la dissolution du GAL, le groupe antifasciste Lyon. Et environ, on reviendra évidemment sur l'analyse des propos qui ont été tenus à l'époque par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
La manifestation de soutien samedi dernier dans les rues de Lyon n'a rien changé. La dissolution du mouvement d'ultra-gauche a été confirmée hier après le Conseil des ministres.
Nous avons adopté la dissolution du groupement de fait dit groupe antifasciste Lyon et environ, connu pour ses actions violentes, ses appels à la haine et son incitation virulente et incessante à s'en prendre à nos forces de l'ordre.
Le GAL est un mouvement né en 2013 après la mort de Clément Méric. Assimilé par les spécialistes aux Black Blocs, ses militants sont autonomes. Pas de chef, pas de structure administrative et un discours politique de lutte contre les idées d'extrême droite.
Comment ont coexisté Sébastien Bourdon à Lyon, le GAL et la Jeune Garde? On a bien compris que c'était deux traditions différentes des courants antifascistes. Être dans une même ville, tenir une forme de terrain, tenir la rue, comment cela se passait justement dans l'interaction entre ces deux groupes?
Alors ça s'est pas toujours très bien passé entre ces deux groupes. Au tout début, il y a eu des tentatives de travail unitaire. La Jeune Garde avait vraiment cette volonté dans ses modes d'action de travailler le plus possible avec un large panel d'organisations, disons, de la gauche, qu'elle soit politique, syndicale, associative. Donc au tout début, on a vu notamment un certain nombre de tracts ou de communiqués qui ont pu être signés conjointement. Mais assez rapidement, les relations se sont envenimées entre les groupes, notamment parce qu'en fait, ils défendaient des conceptions assez différentes de l'antifascisme et de la façon de lutter contre l'extrême droite et contre l'implantation de l'extrême droite radicale dans la ville. La question des dissolutions, notamment, et d'appeler ou non à la dissolution des groupes d'extrême droite radicale, est quelque chose qui a beaucoup divisé le camp antifasciste.
Marielle Lenoux, là aussi, j'allais dire très concrètement, comment décrire le travail, la mobilisation, le répertoire d'action de la Jeune Garde ou même du GAL, au fond, comment agissait-il au quotidien pour lutter contre les fascistes lyonnais, pour reprendre l'expression ?
Comme je l'expliquais, la stratégie de Raphaël Arnoux, plus particulièrement, qui a été le cofondateur de la Jeune Garde et qui aujourd'hui est député, ça a été d'agir sur tous les terrains. C'est-à-dire qu'il s'est présenté plusieurs fois à la députation, d'abord à Lyon et ensuite dans le Vaucluse. Et c'est un peu l'aboutissement de leur stratégie que d'avoir eu un de leurs membres élu à l'Assemblée nationale. Et à côté de ça, oui, il y avait une présence en défense des événements de la gauche, mais aussi une présence sur le terrain de défense de territoires comme la Croix-Rousse, mais aussi d'autres territoires à Lyon. Et donc, c'est là où se pose la question de l'utilisation de la violence antifasciste et ce que devra répondre l'enquête qui est menée aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'a suscité, Marielle Lenoux, la mort de Clément Méric en 2013, là aussi dans la structuration de ces groupes antifascistes ? Est-ce que ça a été un vecteur de dynamisation ? Est-ce que ça a été un vecteur de structuration également, la mort de ce militant tué par des groupes d'extrême droite en 2013?
Oui, tout à fait, puisqu'en fait, le GAL, le groupe antifasciste Lyon et Environ, se crée suite à la mort de Clément Méric à Lyon.
Quel est le rapport, Sébastien Bourdon, de ces groupes antifascistes à la violence? Est-ce que c'est le dernier recours ou bien non, bien en amont, elle est théorisée, c'est un mode d'action comme les autres, parmi d'autres, mais un mode d'action qu'il faut aussi intégrer?
Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que la violence est un mode d'action, le recours à la violence politique est un mode d'action qui fait partie de façon assumée du répertoire militant des différents groupes antifascistes, mais ça n'est absolument pas le seul mode d'action qui mobilise. 90% du travail militant des militants et militantes antifascistes est en fait un travail militant très classique qui consiste à aller coller des affiches, distribuer des tracts, organiser des conférences, aller en manifestation, etc., etc. La spécificité qui fait le militantisme antifasciste, c'est que en plus de ce militantisme classique, il y a le fait d'accepter la possibilité du recours à la violence. Cette violence, elle est avant tout pensée par ces groupes comme étant un outil. Ça ne fait pas partie de leur projet de société et c'est entre autres ce qui différencie quand même ces groupes des groupes d'extrême droite dans leur rapport à la violence. Mais en tout cas, quand on interroge les acteurs, eux-mêmes parlent systématiquement de la violence comme devant relever d'un cadre, enfin comme devant relever d'une autodéfense. Ils parlent beaucoup du mot d'ordre autodéfense populaire et donc c'est avant tout comme ça qu'ils perçoivent leur recours à la violence. Alors le fait est que évidemment, on l'a vu notamment ces derniers jours, le fait de frapper à de très nombreuses reprises une personne à terre jusqu'à entraîner sa mort, évidemment dépasse ce cadre de l'autodéfense. Mais en tout cas, c'est comme ça que ces acteurs-là théorisent et perçoivent leur recours à cet outil politique.
Marielle Lenoux, vous êtes d'accord avec ce que vient de décrire Sébastien Bourdon ?
Oui, je suis d'accord. Nous, on n'a jamais eu à Lyon le cas de militants antifascistes qui vont s'en prendre, attaquer des personnes, attaquer des lieux qui ne sont pas eux-mêmes des membres ou des militants de groupuscules d'extrême droite. Et même les cas d'attaque sur des militants d'extrême droite sont assez rares. On est très majoritairement dans le cadre de l'autodéfense quand on voit qu'il y a des affrontements entre des antifascistes et des militants d'extrême droite.
L'autodéfense, quand on observe ou quand on tente d'observer tout de même ce qui s'est passé la semaine dernière, on est d'accord que c'est un principe qui a été dévoyé en l'occurrence.
Les images qu'on a pu voir, en effet, montrent, comme le disait Sébastien Bourdon, le dépassement de ce cadre d'autodéfense. Alors, on sait aussi qu'il y a eu une rixe précédant les images où l'on voit Quentin Derenck être frappé à terre. L'enquête devra déterminer les responsabilités de chacun. Et j'imagine que cela posera aussi la question dans les milieux antifascistes de comment encadrer leur propre recours à la violence.
Sébastien Bourdon, vous souhaitez réagir ?
Simplement pour parler des cas de figure de dépassement entre guillemets de l'autodéfense, un autre cas qui a beaucoup fait parler récemment quand même, c'est le cas du député Raphaël Arnaud, donc on l'a dit cofondateur de la Jeune Garde et porte-parole de la Jeune Garde à Lyon pendant très longtemps avant d'être aujourd'hui député de la France Insoumise. Raphaël Arnaud a été condamné en 2022 pour des faits qui ont eu lieu en 2021, donc il n'était pas encore député à l'époque, mais il était déjà un des leaders de la Jeune Garde, des faits où en l'occurrence, en marge d'une manifestation d'extrême droite à Lyon, du courant identitaire, lui-même et cinq autres militants s'en sont pris à un jeune homme de 18 ans qui soupçonnait d'aller participer à cet événement. Ils lui ont demandé d'enlever sa veste pour vérifier s'il n'avait pas, je cite, des tatouages nazis et ensuite de déverrouiller son téléphone pour le fouiller. Ce jeune homme a refusé de déverrouiller son téléphone. Il a été projeté violemment au sol. Il a eu une journée d'ITT mais en l'occurrence, Raphaël Arnaud donc, a été condamné pour violence en réunion pour ces faits-là en 2022, avait fait appel et s'est désisté de son appel en 2025. Donc il a été condamné tout de même définitivement pour cet acte.
Dans votre travail, dans vos observations, Sébastien Bourdon, quel lien, s'il y en a justement au-delà de ce lien entre Raphaël Arnaud et la France Insoumise et la Jeune Garde, quel lien vous avez pu observer plus structurel entre des partis, peut-être la France Insoumise et la Jeune Garde et le mouvement antifasciste ?
Alors, le fait est que, pour continuer à parler de la Jeune Garde, les liens, il y a des liens évidents entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Je parle absolument pas de l'événement de jeudi dernier. En l'état, il y a strictement aucun élément matériel qui permette de pointer une responsabilité de la France Insoumise dans les événements de jeudi dernier, encore une fois, à la date d'aujourd'hui. Mais de façon plus générale, les liens sont évidents. Évidemment, il y a la question de la personnalité de Raphaël Arnaud, qui a donc été investi candidat de la France Insoumise dans le cadre du Nouveau Front Populaire en 2024, mais les liens précèdent cette investiture. À l'été 2023, pour prendre un exemple, on a tout de même Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard qui s'étaient affichés, qui avaient communiqué sur leur présence à un camp d'été de la Jeune Garde, et de la même façon, la Jeune Garde a depuis plusieurs années un stand aux universités d'été de la France Insoumise.
Est-ce qu'il y a une coexistence, c'est aussi ce qu'on a pu lire, dire ou entendre, dans la façon d'organiser les services d'ordre, le service d'ordre officiel de la France Insoumise et le travail de la Jeune Garde.
En l'état, pour le cas de jeudi dernier, la France Insoumise assure qu'ils avaient leur propre service d'ordre qui était déployé sur place et qu'ils n'ont pas eu de lien avec ce groupe de militants et militantes antifascistes qui étaient sur place, a priori liés à la Jeune Garde, si on en croit les profils des personnes qui ont été interpellées ces dernières 24 heures. Donc, dans ce cas-là, pour l'instant, on n'a pas d'éléments matériels.
Maria Lenoux, quel impact, justement, de ce décès, du décès de Quentin à Lyon ? Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui, justement, dans le discours des personnes que vous rencontrez dans vos reportages ?
On voit que, déjà, il y a un gros choc de la ville entière. Moi, j'ai eu plusieurs sources antifascistes qui me disaient, en fait, ça fait des années qu'on alerte sur le fait qu'il y aura peut-être un mort, mais ils se doutaient pas que le mort, il serait dans l'autre camp. Eux disaient plutôt que ce serait du côté des militants de gauche ou des personnes non blanches, par exemple, qui auraient un mort. Donc, il y a vraiment une forme de sidération. Nous, on essaye de faire parler tout ce milieu de gauche, justement, qui était en lien avec la Jeune Garde et on voit qu'il y a un grand malaise dans la façon de qualifier les faits parce qu'il y a à la fois un refus total de la violence qu'on a pu voir sur les images sur un homme au sol, mais en même temps une volonté de ne pas jeter sous le bus l'antifascisme et tout le travail qui a été fait pour lutter contre l'implantation de l'extrême droite à Lyon, pour alerter sur la violence d'extrême droite et essayer de ne pas faire oublier ce contexte lyonnais très particulier. Et c'est une position qui est difficile à faire entendre quand il y a eu littéralement mort d'homme.
Merci beaucoup à tous les deux, Sébastien Bourdon et Marie Alenoux. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey, Mathias Mégy. À suivre, après le journal, on va parler des écoles musulmanes. Sont-elles à part dans le paysage éducatif français ? Merci d'être venu au micro de France Culture.